la Iisus, un învățător de lege, ispitindu-l și întrebându-l: Învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața de veci? Dar Iisus l-a întrebat ce este scris în lege, cum citești. Iar el, răspunzând, a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău. Iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus: Drept ai răspuns, face asta și vei fi viu. Dar tânărul, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: Cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis pilda aceasta: Un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhare care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus lăsându-l abia viu. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea, dar văzându-l a trecut pe alături. Tot așa și un levit, sosind la acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător, ajungând lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă de el. Și apropiindu-i se, i-a legat rănile, turnând peste ele în de lemn și vin. Apoi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoțând 2 dinari, i-a dat gazde și i-a zis: Ai grijă de el și ce vei mai cheltui când mă voi întoarce? Eu îți voi da înapoi. Deci care din acești 3 ți se pare că a fost aproape de celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar tânărul a răspuns: Cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus a zis către el: Du-te de fă și tu asemenea.
Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, un docteur de la loi s'approcha de Jésus et lui dit pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Celui-ci répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le docteur, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus répondit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre par hasard descendait par ce chemin. Il le vit, prit l'autre côté de la route et passa. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, l'aperçut, prit l'autre côté de la route et passa, lui aussi. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut touché de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose en plus, je te le paierai à mon retour. » Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé aux mains des brigands? Le docteur répondit « C'est celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. » Jésus lui dit alors « Va, et toi aussi, fais de même. »
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amin. O să vorbesc acum în franceză și la sfârșit o să reiau în română pentru ca să evităm traducerile simultane. Je vais parler maintenant en français et à la fin je vais reprendre tout en roman. Continuons un peu avec notre catéchèse sur l'Évangile. Si vous ne m'attendez pas, vous pouvez vous approcher un peu. Vous avez entendu tout à l'heure une parole que le prêtre dit. Il dit sagesse. Tenons-nous droit ou tenons-nous debout. Sagesse, tenons-nous debout. Et peut-être vous vous demandez qu'est-ce que signifie cette conseil, debout, sagesse. Je vous ai dit que la liturgie de la parole, le moment de la liturgie quand on lit les textes de l'Évangile, de l'apôtre, c'est un moment très important de la liturgie. Pourquoi ? Parce que nous, comme chrétiens, on a le devoir de lire la Bible, et surtout le Nouveau Testament, et surtout les Évangiles. Il faut partir dans nos démarches de lecture avec la conscience et la foi que la Bible et l'Évangile est un message que Dieu a envoyé aux hommes. C'est un message qui conseille. C'est un message qui nous donne envie d'une rencontre. Il faut être conscient que tout ce qui se trouve dans la Bible, c'est une parole qui vient de Dieu et qui conduit à Dieu. Et dans toutes vos démarches que vous faites, dans vos lectures de la Bible, il faut être conscient, il faut être croyant que c'est la parole de Dieu qui est pour vous et qui vous conduit au Dieu. La lecture de la Bible, ce n'est pas une simple lecture. Beaucoup d'entre vous, moi-même, on a du mal parfois de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire la Bible, qu'est-ce qu'il veut dire l'Évangile, qu'est-ce qu'il veut dire les épîtres qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et ça nous arrive surtout parce qu'on a une démarche trop intellectuelle. Pour la lecture de l'Évangile. On veut acquérir des informations sur la vie de Jésus, sur la vie des apôtres, sur notre vie, des préceptes moraux. On cherche toujours une application de la Bible sur notre situation. Mais attention, l'Évangile, il a son message, qui n'est pas toujours un message qui soit pliable sur nous, si vous voulez. Donc, si vous voulez comprendre la Bible, il faut vous mettre dans l'esprit de la Bible, de l'Évangile. Et comment est-ce que vous vous mettez dans l'esprit de l'Évangile? Surtout et tout d'abord par la prière, par invoquer l'Esprit Saint de venir et d'éclairer votre intelligence pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, le même Esprit Saint qui a révélé cet Évangile, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut nous dire et c'est quoi le message réel de l'Évangile. Et toujours, toujours, toujours une attitude pliante devant le texte. Vous prenez le texte, par exemple le texte qu'on a lu aujourd'hui, le texte du Bon Samaritain, ou le texte qu'on a lu tout à l'heure au milieu de l'église. Vous le reprenez chez vous, vous le lisez, vous le relisez, mais toujours dans une attitude de prière, en demandant au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en soi-même? Il ne faut pas vous mettre votre intelligence dans le texte, dans l'interprétation du texte. Non, pas votre intelligence, mais votre attitude de humilité, si vous voulez, devant la parole qui a été envoyée par Dieu et par l'Esprit Saint. Sagesse. On dit toujours sagesse avant de lire l'Évangile. Sagesse, tenons-nous debout, écoutons la Sainte Évangile. Ou, quand les garçons de la chorale lisent l'apôtre, au milieu, on dit sagesse, lecture de l'épître, je ne sais pas quoi, soyons attentifs. Sagesse et soyons attentifs toujours. Pourquoi le prêtre dit sagesse? C'est une sagesse spirituelle qui est nécessaire pour pénétrer dans le monde de l'Évangile. On ne peut pas venir comme ça, on écoute l'Évangile et on a l'impression que voilà, c'est un texte comme les autres. Nous, si vous voulez pénétrer dans le monde de l'Évangile, il faut pénétrer avec la sagesse transformée, l'intelligence transformée, l'intelligence de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui a inspiré les auteurs qui ont écrit la Bible, et c'est le même Esprit qui nous donne à nous-mêmes la capacité de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il veut dire cet évangile ou un fragment ou l'autre de l'évangile. Donc attention, la lecture de l'évangile, ce n'est pas une simple lecture, et je vous prie de retenir ça. Ce n'est même pas une méditation, parce que ça peut avoir de réflexions psychologiques, on médite, non. C'est entrer dans la sagesse de Dieu. C'est entrer dans sa manière, c'est entrer dans une manière de comprendre la parole du Christ pour nous, la parole du Saint-Esprit, la parole de Dieu pour nous. Pas comme on veut nous, mais comme la parole a été écrite et comme le message il est en soi-même. Les pères de l'Église, ils disent aussi que une chose qui est très spécifique pour le chrétien, malheureusement, c'est la superficialité dans la lecture du texte. On est très superficiel quand on lit le texte de l'Évangile. On lit une fois et on s'attend de comprendre tout d'un coup. C'est pas vrai. Je vous conseille, je vous donne même des conseils pratiques. Écrivez le texte. Prenez 5 lignes de l'Évangile, écrivez-les. Écrivez-les sur un papier ou je ne sais pas quoi, sur l'ordinateur. Et en écrivant, ça vous travaille mieux qu'en lisant 20 secondes et après on a fini avec l'Évangile. Non, insistez. Essayez d'éviter une attitude superficielle devant la parole du Christ. Toujours, mettez-vous au travail de la compréhension de l'Évangile d'une manière impliquée. Parce que les pères de l'Église disent que la superficialité dans la lecture de l'Évangile, c'est un travail satanique. C'est un travail qui nous éloigne de Dieu. La superficialité de la lecture de l'Évangile. Satanique, je répète. Il faut avoir même un sort de timidité devant le texte. de l'Évangile. Il ne faut pas trop oser. Voilà, je lis maintenant le texte, je suis sûr que je vais trouver des sens absolus, des significations absolues. Non, il faut, dans cette attitude priante devant le texte, je me rappelle que quelqu'un disait, même prier le texte en soi-même, c'est difficile à traduire en français, mais le texte priant, il doit devenir lui-même une prière pour nous-mêmes. Dans cette attitude priante, il faut avoir aussi cette timidité et la silence aussi. La silence en nous-mêmes, la silence dans nos profondeurs. Il faut trouver la silence pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Parce que si on commence à nous mettre nous-mêmes toujours dans nos explications, on va rater peut-être le message. On va nous écouter nous-mêmes, on va écouter nos explications, on va rater le vrai message de la Bible. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la lecture, parce que c'est ça le sujet de mon homélie d'aujourd'hui. Comment faire la lecture de l'Évangile et de la Bible en général? Jamais n'interprétez pas un texte tout seul. Essayez d'avoir près de vous un commentaire. C'est plein de commentaires de pères de l'Église sur les Évangiles et sur la Bible en général. Achetez-vous un livre par mois, ou par deux mois, ou par trois mois, mais toujours Saint-Jean Chrysostome. Je vous recommande beaucoup Saint-Jean Chrysostome. Beaucoup, parce qu'ils expliquent beaucoup les Évangiles. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui a eu une vie de sainteté, de l'avoir à côté de nous. Quand on ne comprend pas, on cherche qu'est-ce qu'il veut dire cet évangile, qu'est-ce qu'il dit Saint-Jean Chrysostome sur cet endroit que je ne comprends pas. Et vous allez voir que vous allez trouver un petit éclairage, peut-être pas très grand, mais un peu plus que si vous alliez interpréter vous-même. Qui d'autre père de l'Église est-ce que je peux vous recommander pour des commentaires? Donc Saint Jean Chrysostome, même Saint Grégoire Palamas qu'on fête aujourd'hui, Saint Grégoire Palamas qui a vécu le 14e siècle et qui a une théologie très très expérimentale, si vous voulez, une théologie où il dit voilà la parole de Dieu est une parole qui nous est adressée et qu'il faut le mettre toujours en pratique. Si vous lisez les homélies de Saint Grégoire Palamas, vous allez toujours, toujours, toujours rencontrer ça. Il faut faire pénétrer la parole de Dieu en nous-mêmes. Il faut mettre en travail la parole de Dieu qu'il nous a adressée. Il faut le mettre en travail. Donc Saint Jean Chrysostome, Saint Grégoire Palamas, il y a encore des autres, beaucoup. Je n'ai pas dans la tête maintenant de vous dire des autres pères, mais Saint Basile le Grand, par exemple, qui a des grands commentaires sur le psaume, Saint Basile le Grand. Parce que le psaume aussi, on le lit à la première vue, c'est pas grand chose, mais il y a une profondeur théologique dans les psaumes. Je vous conseille de lire les psaumes chez vous. Lisez les psaumes chez vous, comme prière et en même temps comme lecture de la Bible. Vous allez découvrir des profondeurs d'une théologie extraordinaire. Psaume 50, par exemple, quand vous vous sentez dans le péché, lisez le psaume 50. Vous allez voir combien le prophète David il a pu mettre dans des paroles une beauté de prière, et beaucoup des autres interprétations. Je m'arrête ici. Je voudrais tout simplement vous lire un autre texte qui fait partie de la Bible, qui a été écrit par l'apôtre Paul dans une épître aux Galates. Je ne peux pas vous expliquer où se trouvait la Galate, c'était dans l'Asie mineure, je crois. Il y avait une communauté là-bas, une petite communauté de chrétiens qui a beaucoup grandi après, en phase incipiente bien sûr. Ça s'est passé quelques dizaines d'années après la résurrection du Christ. Et comme je vous ai dit, l'apôtre Paul qui a été le plus... qui a donné le plus, beaucoup, beaucoup des épîtres, et toutes le Nouveau Testament, presque tout le Nouveau Testament, la plus grande partie du Nouveau Testament est composée par ces épîtres adressées aux différentes communautés. Donc, dans cet épître aux Galates, il dit des choses très intéressantes sur l'attitude devant l'Évangile. Écoutez, et avec ça je vais finir. J'admire, mais il dit avec un sens péjoratif, j'admire avec quelle rapidité vous vous détournez de celui qui vous appelait par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Bien sûr, il n'y a pas un autre évangile. Qu'est-ce qu'il veut dire l'apôtre Paul ici? Il veut dire que les Galates, ils ne se tenaient plus d'une manière droite d'interpréter l'évangile. Ils avaient des interprétations qui n'étaient plus dans la vérité. Mais si quelqu'un, même nous, dit l'apôtre Paul, même un ange du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Anathème, ça signifie qu'il soit écarté de l'Église, qu'il ne fait plus partie de l'Église parce qu'il enseigne autre chose. Attention, attention à l'attitude de l'apôtre Paul. Il ne veut pas faire une harmonie à tout prix. Non, si vous prêchez d'une autre manière l'Évangile, votre place n'est pas dans l'Église. Votre place n'est pas dans l'Église. C'est ça qu'il dit l'apôtre Paul. Nous l'avons déjà dit, et je le redis maintenant. Je répète, si quelqu'un vous annonce un évangile différent, qu'il soit anathème. Car, se demande l'apôtre Paul, maintenant, est-ce que je cherche la faveur des hommes ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou est-ce que je cherche à plaire à Dieu? Moi-même, comme prêtre, je me demande, est-ce que je cherche à plaire aux hommes, aux fidèles, ou dans mes interprétations, que je souhaite que ce soit des interprétations suivant la tradition orthodoxe, ou je cherche à plaire à Dieu. Je vous assure que si quelqu'un qui prêche l'Évangile veut plaire aux hommes, il va rater. Il faut toujours voir que l'interprétation doit amener les fidèles vers Dieu. Même s'il y a, c'est pas facile, c'est une crise. L'Évangile amène des crises dans nos vies, des crises très profondes, parce que on abandonne l'homme vieux et on commence une nouvelle vie. Et ça amène des crises, ça c'est clair. L'Évangile nous amène des crises. Ne vous attendez pas que l'Évangile va amener toujours la paix dans vos vies. Non, ça c'est clair. L'Évangile va amener des crises, mais des crises résurrectionnelles, si vous voulez. Le Christ qui vous amène vers la vraie résurrection. Parce que nous, on est tenté de chercher une paix psychologique. Tout de suite, on a besoin de se apaiser à nous-mêmes, de trouver. Non. Il faut abandonner le vieux homme par la parole du Christ et de retrouver, la vraie vérité. Est-ce que je cherche la faveur de l'homme ou celle de Dieu? Vous-même, demandez-vous-même. Quand vous interprétez, est-ce que je cherche la faveur de moi-même, c'est-à-dire vous-même, ou je cherche dans mon interprétation la faveur de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou à Dieu? Et l'apôtre Paul, il conclut, si j'en étais encore à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. Si j'en étais encore à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Donc ne vous inquiétez pas, si vous partez parfois de l'Église un peu déraillé, c'est parce que la parole de l'Évangile a commencé à travailler en vous. Ça peut énerver, ça peut mettre dans des états de colère même, contre le prêtre, contre l'Église. Pourquoi est-ce que ça nous vient sur nous? Pourquoi? Mais petit à petit, vous allez voir que par la prière, quand vous vous mettez dans cet état de prière, vous allez comprendre pourquoi l'Évangile vous dit à vous-même ça. Dans le moment, quand vous avez besoin, sans que vous vous rendriez compte. Je m'arrête ici. Lisez Épître aux Galates au premier chapitre, de verset 8 jusqu'à 10, deux versets, une page. Écrivez-les sur un feu de papier et méditez. Qu'est-ce qu'il veut dire l'apôtre Paul? Si quelqu'un qui annonce un autre évangile, c'est un anathème. Si je veux plaire aux hommes, ça signifie que je ne plais pas à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et je vous prie que chaque fois que vous venez à la liturgie, venez dans cette attitude pliante. Venez toujours dans cette attitude pliante. Chez vous, avant de partir à l'église, demandez au Seigneur de vous éclairer l'intelligence spirituelle pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire le prêtre dans l'homélie? Qu'est-ce qu'il veut dire l'évangile? Qu'est-ce qu'il veut dire l'apôtre qui est lu au milieu de l'église? Je vous remercie pour votre patience et je prie le Seigneur pour qu'il vous donne, comme je vous ai dit, la capacité de comprendre qu'est-ce qu'il veut de nous. Je vais répéter tout ça à la fin de la liturgie, un peu résumé en roman. Que Dieu nous bénisse.